France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, quelles sont les vertus du bilinguisme, notamment chez les enfants et les adolescents, quand on sait que la moitié des enfants du monde parlent une langue différente de celle parlée à la maison. Dans notre pays, un enfant sur quatre parle chez lui une autre langue que le français. Alors à quoi ressemble le développement cérébral et intellectuel des bilingues, des plurilingues? De quelle façon le bilinguisme ou le plurilinguisme contribue-t-il à la réussite scolaire? Les bilingues pensent-ils et voient-ils le monde autrement? Nous verrons également si certaines langues sont plus valorisées que d'autres. Et vous, racontez-nous les vertus du bilinguisme chez vous, chez vos enfants ou petits-enfants, au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France en laissant message et note vocale. Les enfants et les ados peuvent appeler également. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Sandra est née en France, mais ses deux parents sont espagnols. Petite, ils ne lui parlaient qu'en français.
Ça m'a beaucoup manqué que mes parents ne me parlent pas en espagnol, parce que du coup, ça fait partie de leur histoire. Et du coup, il me manque un bout. Pour moi, en fait, à la naissance de Louis, c'était très, très important de lui faire part de ma culture, qui est aussi la sienne, finalement. Le fait d'avoir la chance de connaître une seconde langue, ça l'a rendu curieux. Il est très ouvert, en fait.
Le papa de Louis est français et ne parle pas l'espagnol. Les échanges mère-fils dans cette langue renforcent leur complicité.
La nariz, también, y la boca.
Je l'ai déjà fait la boca.
Ponte la capucha o el paraguas. Paraguas, vamos.
Extrait des maternelles en 2017 sur France 2. Bonjour Nawal Aboub.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences cognitives de l'Université Paris-Cité, spécialiste du développement du cerveau et de l'apprentissage, et vous avez notamment publié au livre de poche « La puissance des bébés ». Bonjour Michel Launay, bienvenue.
Bonjour, vous m'entendez ?
Oui, on vous entend très bien, Michel Launay. Vous êtes linguiste, professeur émérite à l'Université Paris Diderot. Vous êtes membre des linguistes atterrés et vous avez publié chez Raison d'agir « La République et les langues ». Bonjour Anna Stevanato.
Bonjour.
Vous êtes linguiste spécialisée dans le bilinguisme et vous êtes fondatrice et directrice de l'association Dulala, d'une langue à l'autre. Quel est le but de cette association, en quelques mots ?
Le but de l'association est de valoriser la diversité linguistique et donc culturelle. En France, on sait qu'il y a effectivement un enfant sur quatre qui grandit avec une autre langue que le français. On sait aussi qu'il y a une inégalité sociale des langues. Il y a des langues qui sont valorisées, reconnues, d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc l'association est très fortement engagée pour valoriser et reconnaître l'égalité des langues, quelles qu'elles sont.
Et lutter contre les discriminations.
Absolument.
Bonjour Claire Etchegoyen.
Bonjour.
Vous êtes directrice du pôle Bayard Jeunesse. Des héros comme Anatole Latuile, Ariol, Mortel Adèle ou encore Petit Ours Brun. Vous proposez une série d'histoires de Petit Ours Brun qui fête ses 50 ans cette année. Oui. À écouter en 10 langues, c'est ça? On y reviendra tout à l'heure. Mais...
C'est ça, oui. 4 histoires qui ont été effectivement adaptées en audio dans différentes langues parmi les plus parlées en France, justement pour pouvoir toucher tous ces enfants qui sont confrontés, enfin qui vivent avec une autre langue que le français chez eux, et aussi pour ceux qui parlent français chez eux, qu'ils découvrent que ce n'est pas le cas de tout le monde.
Et nous accueillons également Nin Rui Liu Wolfenstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes interprète et vous êtes venu avec votre fils Victor, bonjour Victor.
Bonjour.
Tu as quel âge Victor?
Je viens d'avoir 12 ans.
12 ans. Et votre père, Robert Wolfenstein, est un interprète que nous avons souvent reçu ici à Grand Bien vous fasse et sur France Inter. Et vous allez nous raconter tout à l'heure un petit peu le bilinguisme, même le plurilinguisme que vous vivez à la maison. Dis-nous en quelques mots peut-être, Victor, comment ça se passe à la maison entre ta maman qui parle avec toi en chinois, ton père, il te parle en quelle langue à la maison ?
En anglais.
Alors comment ça se passe? Raconte-moi un petit peu comment ça se passe, les échanges avec tes parents quotidiens avec ces deux langues. Vous parlez français à la maison d'ailleurs?
Oui.
Alors comment ça se passe? Raconte-moi en quelques mots.
Bah, je parle chinois avec ma mère et anglais avec mon père. Et quand je parle avec les deux, c'est souvent en français.
Et alors, tu vas nous raconter aussi comment tu switches hein, d'une langue à l'autre. Ça va être très intéressant. Alors, je le disais en introduction, plus de la moitié des enfants dans le monde parlent à l'école une langue différente de celle parlée à la maison. De nombreux enfants sont concernés par le bilinguisme ou le plurilinguisme. Anna Stevanato.
Oui, effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui sont en position de bilinguisme ou plurilinguisme. Il y a des langues qui ne se transmettent pas ou peu. La deuxième langue parlée en France, c'est l'arabe, avec presque 4 millions de locuteurs. Et pourtant, cette langue a 7 fois moins de chances d'être transmise que l'anglais, lorsqu'on parle anglais ou arabe dans les maisons. Toutes les langues ne se transmettent pas pour différentes raisons. Et le but de l'association, c'est d'accompagner les parents à transmettre ces langues et puis accompagner aussi les professionnels de l'éducation, en crèche, à l'école, dans les bibliothèques, à faire une place à cette diversité des langues, à les accueillir, mettre en place une hospitalité langagère.
Alors, plusieurs cas de figure. Certains parents nés en France et issus de l'immigration parlent à leurs enfants les langues de leur famille afin de leur transmettre un patrimoine linguistique et culturel. Et puis, il y a les parents qui font suivre très tôt à leurs enfants des cours privés de langue et les immergent dans un bain linguistique. Et puis, il y a aussi les enfants allophones qui arrivent en France et puis qui découvrent le français.
Presque 80 000 enfants allophones arrivent en France et sont scolarisés dans des dispositifs dits UPE2A.
Donc c'est quoi ?
Alors UPE2A, ce sont des unités pédagogiques pour les enfants nouvellement arrivés en France et donc allophones. Ce sont des dispositifs qui existent du CP jusqu'au lycée, mais on n'a pas des dispositifs en maternelle, par exemple, en pensant que les enfants, tout seuls, vont jouer un rôle de passeur entre la langue de la maison et la langue de l'école, alors que c'est très compliqué de faire ce passage, et on est là pour les accompagner, et accompagner les parents et les professionnels.
Michel Launay, les parents qui font suivre très tôt à leurs enfants des cours privés de langue, en les immergeant dans un bain linguistique, c'est une situation socialement valorisée. Ces parents sont souvent très fiers que leurs enfants parlent également l'anglais, l'italien, l'espagnol ou l'italien.
Oui, c'est ce que dit en d'autres termes Anna Stevanato, c'est-à-dire qu'il y a en quelque sorte un espèce de bilinguisme du riche et du bilinguisme du pauvre. Hein. Si un enfant dit à ses parents « dans ma classe, il y a David et il parle anglais à la maison. Ah, c'est génial, il va être ouvert sur le monde, etc. etc. » C'est bien de pouvoir parler deux langues. Et s'il dit « oui, mais il y a aussi Moussa qui parle Wolof à la maison, il était sénégalais. Ah, le malheureux, comment fait-il pour arriver à parler français en parlant une autre langue comme ça, etc. » Et il n'y aura pas de valorisation du Wolof, alors qu'il y aura une valorisation évidente de l'anglais et du bilinguisme français-anglais.
Qu'est-ce que ça raconte au fond, Michel Launay ?
Ben, ça raconte qu'il y a quelque chose qui pèse sur les langues, qui est l'inégalité sociale, alors que, disons, mon expérience de linguiste et ma conviction de linguiste, qui n'est pas un parti pris de départ, mais qui est issu d'études sur les langues, c'est que les langues sont vraiment, toutes les langues sont des constructions intellectuelles sophistiquées, hein, qui servent à construire le sens, et que de ce point de vue-là, non seulement toutes les langues sont égales cognitivement, mais aussi c'est un patrimoine de l'humanité, si vous voulez. C'est-à-dire que qu'une langue disparaisse, c'est comme si disparaissait un grand monument ou une grande œuvre littéraire. Et donc l'humanité, je pense, a intérêt à garder sa propre glottodiversité, si vous voulez, mais elle n'est pas dangereuse. Elle n'est pas dangereuse, c'est-à-dire le fait de parler d'autres langues ne replie pas sur soi. On peut parler plusieurs langues et le bilinguisme, de ce point de vue-là, est ce qui fait que la crainte qu'on peut avoir depuis Babel sur la pluralité des langues n'est pas fondée.
Nawal Habab, au cours de vos recherches scientifiques, certaines familles issues de l'immigration vous ont dit « je ne veux pas que mon enfant parle ma langue maternelle ». Certains parents vous disent « mes parents ne parlent que le français » et c'est très bien comme ça, des parents issus de l'immigration qui ne mesuraient pas la chance de leur bilinguisme.
Oui, moi j'ai travaillé à l'hôpital Robert Debré où j'ai eu la chance de rencontrer des familles qui venaient du monde entier, et une chose qui m'a m'a vraiment frappée, ça a été ce constat de voir que pour certains, cette transmission était vraiment quelque chose qu'ils ne voulaient absolument pas faire. Et ça m'a vraiment perturbée parce que, en tant que scientifique, on se pose la question de dire mais pourquoi cette langue, elle n'est pas valorisée de la même manière que l'anglais ? Alors pour ça, je suis un peu revenue dans les écrits, hein, comme le font les scientifiques. On retrouve dès 1920, dans les écrits, cette idée de confusion mentale, de retard mental que provoquait une deuxième langue. Et ça, en fait, ça a aussi provoqué dans la conscience collective à quel point les langues peuvent être une difficulté en fait pour les jeunes enfants.
Et oui, Nawal Abboub, pendant longtemps, on a cru que le bilinguisme dans la petite enfance avait un impact négatif sur le développement cognitif des enfants. Vous le disiez, certains pédiatres, psychologues alertaient sur la confusion mentale, le retard de ces enfants.
Et on l'entend encore.
Et jusqu'aux années 1960, on pensait que le bilinguisme risquait d'entraîner une confusion dans la tête des enfants, voire un retard mental, et ce sont des études américaines qui bien souvent manquaient de rigueur scientifique, car on comparait, notamment aux États-Unis, des enfants anglophones à des enfants immigrants en phase d'apprentissage.
Tout à fait. Ouais. C'est vrai que dans cette littérature, la science, c'est toujours difficile, on doit toujours contrôler plein de conditions, parfois on n'a pas tout, donc ils ont essayé de faire des choses, ils ont vu qu'effectivement il y avait des différences, mais maintenant, depuis les années 20 et 60, on a fait vraiment des dizaines de recherches qui maintenant montrent la même chose, il n'y a aucun retard cognitif sur les enfants qui sont bilingues, bien au contraire, c'est plutôt l'inverse en fait. Et donc ça, il faut vraiment le répéter, puisque bien qu'on ait fait des efforts, la preuve, regardez, on vient parler de bilinguisme ici, on a encore beaucoup de choses aussi à porter sur le terrain, à rassurer les familles, rassurer les professionnels, aussi former les pédiatres, tous les professionnels de santé sur cette question-là, pour qu'on puisse rassurer ses parents. Pourquoi cette famille a dit, ben non, je ne veux pas transmettre cette langue, c'est parce qu'elle s'inquiétait, elle se disait, mon enfant va être en difficulté. Et donc, c'est notre rôle de pouvoir accompagner ses parents, les aider, leur dire, vous inquiétez pas, c'est bien l'inverse, et que ça soit du sousou, du soniqué, du wolof, de l'arabe, au contraire, ce ne sont que des bénéfices. Après, je veux juste dire une chose, c'est que la transmission d'un bilinguisme, c'est toujours en fonction des parents. C'est eux qui choisissent. C'est leur liberté. Parce que chaque langue a une histoire et chaque histoire appartient aux parents.
Anna Stevanato, concernant les élèves allophones qui apprennent le français, trop souvent, on voit leur bilinguisme ou plurilinguisme comme un handicap, une entrave à la réussite scolaire. C'est parfois le cas dans le corps enseignant. Est-ce si vrai que cela?
Oui, tout à fait. Alors,
c'est pas un handicap, justement.
Ce n'est pas un handicap, absolument. C'est plutôt une chance pour tous les enfants. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup de la langue. Il y a des regards sociaux qui pèsent très lourdement sur certaines langues. Donc, évidemment, qu'un enfant qui arrive en classe et qui parle l'anglais sera valorisé. Et puis, des enfants qui parlent d'autres langues, des langues de l'immigration, le seront moins. Alors que, effectivement, c'est très important pour les enfants de se sentir en sécurité affective, de sentir que la langue qu'ils entendent, qu'ils parlent à la maison est une langue qui est bienvenue à l'école pour pouvoir ensuite mieux apprendre le français.
Michel Launay ? Ah, on vous a perdu, Michel Launay. Vous êtes là ?
Je suis là.
Vous vouliez peut-être réagir ?
Évidemment, cette espèce d'idée que le fait d'être plurilingue vous mettez de la bouillie dans la tête et que vous êtes incapable de parler correctement, c'est quelque chose qui a traîné depuis. Alors il y a une très bonne étude de Madame Tabouret-Keller qui s'appelle Le bilinguisme en procès. Effectivement, disons du milieu du 19e au milieu du 20e siècle, tout le monde a cru, et en particulier ce qui est grave, c'est que les systèmes éducatifs ont cru que le bilinguisme était néfaste pour le développement psychologique. Et il a fallu attendre effectivement les années 1960 pour que des recherches sérieuses cette fois-ci, avec toutes les exigences de la recherche, montrent que ça ne tenait pas du tout. Alors quant à la dimension affective, c'est évidemment très très clair. C'est-à-dire que des parents s'interdisent de parler à leur enfant la langue que eux connaissent le mieux, la langue dans laquelle ils sont mieux à même de développer toutes les capacités du langage, et en particulier les capacités affectives, ça va avoir des effets désastreux sur le développement des enfants.
Et nous verrons.
Donc il ne faut absolument pas décourager, entraver la transmission de la langue que les parents connaissent le mieux. Et s'il y a des personnes, il y en a encore dans l'éducation nationale, malheureusement, qui essaient de faire passer cette idée, ne parlez que français à vos enfants à la maison, même si vous ne parlez pas très bien français, je dirais c'est une faute professionnelle, ça devrait être caractérisé comme tel.
Allez, nous verrons dans quelques instants que dans les années 60, des études menées sur les enfants canadiens bilingues, franco-anglais, surpassaient les monolingues dans les mesures verbales et non-verbales de l'intelligence. Bonjour Gwenaël Boulay.
Bonjour.
Parfaitement bilingue ?
Mais tout à fait.
Bien sûr, rédactrice en chef de Poppy et Pomme d'Api. Quel est le menu de votre chronique « Ma vie de parent » ?
Moi, je veux dire comment nous avons lamentablement échoué à rendre nos enfants bilingues, tels des petits Danois.
Ça promet.
L'anglais ne nous intéresse pas ?
Bon. Non, mais ça sert à rien d'apprendre les langues étrangères.
Grand bien vous fasse.
Le français vous suffit.
Mais c'est pas ça, mais il y a des machines pour traduire. Alors pourquoi je me casserai le cul ?
Et on remercie la directrice de ton collège de nous avoir, de t'avoir autorisé à être là ce matin, Victor. Tu es donc trilingue, français, chinois, anglais. Tu interviendras tout à l'heure. Justement, Nin Rue Liu Wenfenstein, vous êtes la mère de Victor. Vous vouliez intervenir sur ce que nous avons dit juste avant le disque.
Effectivement, tout à l'heure, à la première partie de conversation avec les spécialistes, je trouve beaucoup de notions que je tiens à cœur. Vraiment, par exemple, on parle de la formation des enseignants. Je pense que c'est extrêmement important. Quand mon fils est arrivé à l'école maternelle à l'âge de 3 ans, il ne parlait pas très bien le français parce qu'on avait fait le choix de lui donner les deux langues, l'exposition à l'anglais et au chinois. Donc, il est faible en français. Quand il arrive à l'école maternelle, l'enseignante a dit... votre Victor est très arrogant parce qu'il n'écoute jamais mon instruction. Alors donc du coup, ça a été une expérience très difficile pendant un mois et je ne savais pas, parce qu'il ne savait pas s'exprimer à l'époque, ses sentiments. Donc une expérience difficile. Pourquoi on avait pris la décision de choisir les deux langues, que l'anglais et le chinois? Parce que justement, sans doute, c'est un préjugé de dire exposer en même temps à trois langues, sans doute ça va créer de la confusion. On n'avait pas les expertises, donc on avait fait le choix. Alors justement, une question que j'aimerais bien poser à Nawel, est-ce que ça crée des confusions ?
Nawel Aboub, spécialiste en sciences cognitives.
Alors vous n'êtes pas la seule à dire ça, et en fait ça me fait de la peine de voir à quel point vous avez été affectée par ça, parce qu'en réalité non, il n'y a aucun problème à apprendre 2, 3, 4 langues. Vous savez, maintenant le multilinguisme c'est la règle, ce qui est une exception c'est le monolinguisme. Une majorité des enfants dans le monde, ils vivent avec plusieurs langues, dans certains pays il y a même 4 langues, et les enfants l'apprennent sans aucun problème. Donc après, c'est vrai que ce que vous expliquez, c'est que les professionnels manquent de formation autour de ça pour essayer de comprendre, justement quand un enfant ne vous comprend pas, c'est pas parce qu'il veut vous manquer de respect, c'est parce que tout simplement il ne vous comprend pas. J'ai entendu une fois, ils ont des conflits de loyauté envers leurs parents, mais en réalité non, c'est juste qu'ils ne sont pas, ils ne parlent pas votre langue. Et donc faut prendre. Mais la réalité, c'est que les jeunes enfants, contrairement à nous adultes, ont cette immense capacité dans leur cerveau à pouvoir apprendre ces langues beaucoup plus facilement que nous. Et donc on les voit comme si ça va être une montagne pour eux de pouvoir apprendre une troisième langue ou une quatrième langue, alors qu'en fait pas du tout. En un an, en combien de temps tu as appris le français quand t'es arrivé à l'école?
Je sais plus.
Non, à peu près.
Ouais,
6 mois, tu comprends.
Ok. Et combien de temps, moi, ça me prend d'apprendre le chinois et le parler aussi couramment que toi? Je pense des années. Donc, c'est pour nous montrer que le cerveau des jeunes enfants, au contraire, on l'a souvent sous-estimé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon livre La puissance des bébés. Enfin, c'est pas moi, c'est mon éditrice Isabelle Saporta qui a eu justement cette remarque en disant non, justement, ils sont très, très puissants. Ils ont cette capacité. Laissons justement leur cerveau faire. C'est via les interactions qu'on va avoir avec eux, la qualité des interactions sociales, des différents supports qu'on peut utiliser, qu'on va les amener à apprendre cette nouvelle langue sereinement et pas dans le stress et dans une situation où ils ne se sentent pas bien et pas assez confiants pour pouvoir les apprendre correctement.
Claire Etchegoyen, directrice du pôle Héros chez Bayard Jeunesse.
Oui, j'avais envie de rebondir là-dessus parce qu'au-delà du côté cognitif, il y a aussi cette merveille de la petite enfance qui est l'ouverture totale qu'ils ont, c'est-à-dire une forme de non-jugement a priori. C'est, c'est aussi l'histoire qui est racontée dans le Pomme d'Api de ce mois-ci, de Petit Ours Brun. Il y a une petite fille qui arrive dans la classe de Petit Ours Brun et qui ne parle pas le français. Et passé la première surprise, en fait, ils n'ont pas le langage en commun, mais la langue en commun, mais peuvent trouver un langage commun. Donc là, ça passe dans l'histoire écrite par Marie Aubinet, ça passe par le jeu et la découverte que si Isel ne connaît pas la comptine de la famille Tortue, elle en connaît une autre et ça leur fait un terrain commun. Je trouve que c'est ça qui est génial de commencer, d'aborder ce sujet dès la petite enfance, parce que eux, les enfants, ils n'ont pas de jugement en fait, ils sont dans l'ouverture totale. Et nous, chez Bayard Jeunesse, on est ravis de contribuer à faire émerger ce sujet pour que justement il soit pris le plus tôt possible à l'âge où les enfants n'ont pas de barrière en fait.
Anna Stevanato, vous êtes la fondatrice et directrice de l'association Dulala.
Oui. Oui, et on a eu la chance de travailler autour de ce bel ouvrage qui est Petit Ours Brun et l'histoire donc du mois de mai qui est l'histoire d'Isel, qui est un enfant turcophone qui arrive dans sa classe et qui ne parle pas encore le français. Et c'est une histoire en fait qui parle à beaucoup d'enfants qui, comme elle, arrivent en France, ou alors des enfants qui ont d'autres langues à la maison alors qu'ils sont nés en France. Et c'est aussi un outil, finalement, qu'on met dans les mains des professionnels des crèches ou des écoles pour pouvoir accueillir cette diversité des langues à travers notamment des ressources que nous avons développées pour rencontrer, explorer les langues des enfants, les langues de l'histoire et en faire une richesse partagée. L'idée, c'est de déconfiner en fait les langues de l'espace famille ou de l'espace communautaire et de leur rendre un espace public à l'école, dans les crèches.
Et l'album s'appelle Petit Ours Brun a une nouvelle amie. Alors, Nawal Aboub, on le disait tout à l'heure, pendant longtemps, à partir des années 1920, certains spécialistes estimaient que le bilinguisme de la petite enfance avait un impact négatif sur le développement cognitif des enfants. Dès les années 60, des chercheurs ont montré que les enfants canadiens bilingues, franco-anglais, surpassaient les monolingues dans les mesures verbales et non-verbales de l'intelligence. Et à partir de ces recherches, le bilinguisme a été vu comme bénéfique avec des avantages insoupçonnés.
Tout à fait. Alors vous avez vu depuis les années 60, regardez le débat qu'on a en 2025, donc on voit qu'on a encore du travail malgré le fait qu'il y ait des avancées scientifiques. Et en fait finalement les recherches sur le bilinguisme c'est très récent dans l'histoire de la science. En France il n'y a pas autant de laboratoires qui travaillent sur ça. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir justement étudier ce phénomène à la base, je ne devais absolument pas travailler sur le bilinguisme. C'est parce que j'ai vu mes données et je travaillais sur les nouveau-nés. Je regardais dès la naissance comment justement le cerveau était en capacité de pouvoir analyser des sons complexes, etc. Et en fait, mes résultats étaient très très bizarres. Et avec ma directrice de thèse, on s'est dit, mais on va quand même prendre en compte la langue maternelle des mamans. Ouais. Et c'est là où j'ai vu des différences flagrantes entre des bébés monolingues et des bébés bilingues. Alors c'est bizarre de dire des nouveau-nés monolingues et des nouveau-nés bilingues, mais en fait... On n'avait pas idée à quel point déjà en prénatal, il y a une exposition en fait aux langues.
Dans la vie intra-utérine.
Intra-utérine, tout à fait, qui fait que ça influence déjà le cerveau des enfants et ça a déjà un impact. Donc le bilinguisme ne commence pas à 3 ans, mais bien déjà avant la naissance. Et mes bébés, elle est très très bien.
Nawal Aboub, confusez pas mes sons. Un mot sur les différents types de bilinguisme. Il faut distinguer un bilinguisme précoce, acquis dès les premières années et peut-être dès le ventre maternel, et un bilinguisme tardif, quand on apprend une langue à l'école ou à l'âge adulte. Qu'est-ce qui différencie fondamentalement ces deux types de bilinguisme et que montre par exemple la neuroimagerie à ce sujet ?
C'est tout à fait vrai qu'il y a deux distinctions. Alors maintenant, on essaye un peu d'unifier, dire bon, finalement, un bilingue, c'est celui qui apprend et maîtrise deux langues. Mais c'est vrai que les conditions d'apprentissage au début de la vie et un peu plus tard, on voit bien qu'il y a une difficulté qui est très différente. Donc moi, si aujourd'hui je veux apprendre le japonais, et je vous assure que j'ai essayé, j'ai vu à quel point c'était coûteux pour moi, ça allait me prendre beaucoup de temps, alors que des jeunes enfants qui vont vivre dans des environnements comme vous avez induit à la maison, eh bien, en très peu de temps, 3-4 ans, il a été en capacité de pouvoir apprendre plusieurs langues. Donc le cerveau, c'est parce que tout simplement les neurones au début de la vie ont encore cette flexibilité, cette malléabilité, ils ne sont pas encore tout à fait experts, donc il est en capacité de pouvoir apprendre en simultané plusieurs langues. Et donc c'est ça qui fait sa puissance, c'est pour ça que justement moi j'insiste sur ce terme-là, parce que vraiment c'est assez incroyable. Et après, plus tard, vous êtes tellement experts que c'est difficile d'aller contre vos réflexes de votre langue maternelle. D'ailleurs, on fait tous des copier-coller de langue franco-anglais et on reconnaît rapidement les Français avec nos mots. Et puis même l'accent qu'on peut garder pendant des années, puisque tout l'apprentissage moteur de la langue prend, est justement très très rigide quand on est plus âgé, alors que les enfants, ils n'ont pas encore ça. Donc c'est vrai que toutes ces différences font qu'il y a une facilité déconcertante qu'ils peuvent avoir.
Nawal Aboub, chez les bilingues tardifs, ce sont des réseaux cérébraux supplémentaires qui s'activent, hein, situés dans leurs aires frontales, ce qui révèle un effort attentionnel plus important, hein, c'est ce que la neuroimagerie montre, c'est-à-dire que leur cerveau fait plus d'efforts pour traiter l'information. Bref, un bilingue tardif a des performances linguistiques un peu moins bonnes qu'un bilingue qui a commencé dès l'enfance ou dès le ventre de la mère.
Alors, ces recherches-là, elles sont magnifiques parce qu'on voit vraiment qu'un bilingue précoce, on voit qu'il y a un recouvrement des deux langues au sein des zones du langage qui se passent dans le cortex frontal et dans le cortex temporal. Alors qu'un bilingue tardif, on va voir qu'effectivement, il y a ces zones du langage qui s'activent, mais on va avoir des zones supplémentaires dans ce qu'on appelle les réseaux attentionnels liés en fait à tout ce qui concerne le maintien de l'effort. Donc, c'est aussi pour ça que quand moi, je parle anglais, je sais qu'à la fin de la journée où j'ai parlé anglais, pour moi, je suis vraiment beaucoup plus fatiguée que si j'ai parlé en français. Donc ça me demande un effort supplémentaire. Mais ça, c'est parce que je ne suis pas une bilingue complètement... je n'ai pas 50-50 de performance dans les deux. Par contre, si vous êtes un bilingue et que vous avez le même niveau de performance, vous allez avoir un recouvrement total, même si vous êtes un bilingue tardif. Ça dépend de votre performance.
Est-ce que les bébés confondent chacune des langues qu'ils entendent et est-ce que, c'est une idée qu'on peut avoir peut-être, est-ce que le bilinguisme, dès le plus jeune âge, provoque un retard dans l'apprentissage du langage?
Alors, merci de poser cette question. Pour y répondre clairement, non. Les enfants ne confondent absolument pas. Ils font tout à fait la différence, même très très tôt dans le développement, dans les premiers mois de vie, ils font la différence entre les langues. Ils ne confondent pas les mots. Ils savent très bien que ce mot appartient à cette langue. Ils savent très bien que ce mot appartient à cette autre langue. Alors, c'est vrai qu'on peut voir que parfois, ils peuvent mélanger des mots de deux langues différentes. Mais en réalité, ils ont probablement ce mot beaucoup plus rapidement, en fait, dans leur cerveau. Ils vont chercher. Comme nous, bilingues, même nous, francophones, on peut utiliser des mots en anglais parce qu'en fait, il n'y a pas la même... ça ne veut pas dire la même chose. On ne peut pas retrouver le même sens sémantique, donc on va chercher ce mot qui correspond parfaitement à ce qu'on ressent. Donc en fait, les enfants bilingues sont justement très forts parce qu'ils ont cette capacité à pouvoir compenser beaucoup plus facilement, et c'est ça qui, d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera après, leur donne des avantages non seulement sur le côté linguistique, mais également sur d'autres côtés non linguistiques.
Expliquez-nous, tiens, justement.
Alors ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment des recherches récentes, hein. Ça date de 2007-2009, où on a vu justement sur la flexibilité mentale que les jeunes bilingues étaient beaucoup plus performant en fait sur des tâches de flexibilité mentale. Je vous donne un jeu de cartes, tout d'un coup je change la règle, et bien on se rend compte que les bilingues étaient plus rapides. Et alors ça, on l'a vu à 4-5 ans, mais les recherches récentes dont je vous parle, elles l'ont vu dès 7 mois de vie. Et ça, c'est assez fou, en se disant que 7 mois d'exposition à une deuxième langue provoquent des stratégies, leur donne des stratégies d'adaptabilité, de pouvoir s'adapter en fonction du signal qu'ils ont, de dire « Ah, ok, c'est quelle langue, de quelle manière je vais me comporter, etc. » Et ça, c'est assez fabuleux, parce que quand on les voit à 7 mois, on ne s'imagine pas que ces bébilingues sont capables de faire ça. Alors qu'en réalité, ils le sont. Donc, encore une fois, je reviens sur l'idée de « Il ne faut absolument pas les sous-estimer. » Au contraire, ils sont beaucoup plus puissants que ce qu'on imagine, et ils sont en capacité de ne pas confondre les choses et bien apprendre tout au bon endroit, comme il faut.
Michel Launay, je rappelle que vous êtes linguiste.
Oui.
Vous vouliez réagir?
Oui. Je pense à l'histoire de France vis-à-vis de ce qu'on appelle maintenant les langues régionales. Et disons, je pense que l'éducation nationale a raté un truc à partir de 1880, c'est-à-dire en croyant que le bilinguisme allait être néfaste et qu'il fallait que les enfants ne parlent que le français. Et bon, il y a suffisamment de témoignages de petits bretons ou de petits basques pour montrer que c'était de la maltraitance linguistique. Mais il y a à l'heure actuelle des expériences plus intéressantes du côté des territoires ultramarins. Parce qu'il y a encore là des langues qui sont parlées par des enfants français qui, à l'origine, n'ont pas le français comme langue maternelle, chose qui a à peu près disparu en France métropolitaine pour les enfants français. Et on se rend compte maintenant qu'avec une expérience comme celle des des qu'on a appelés d'abord les médiateurs bilingues, puis intervenants en langue maternelle en Guyane, qui introduisent à l'école les langues maternelles des enfants, par exemple amérindiens, ou les enfants noir-marron, bushinengué, comme on dit, et que l'angle d'attaque, c'est pas à partir de la sixième, disons, l'angle d'attaque, c'est la tendre enfance. C'est-à-dire, c'est vraiment l'école, c'est à l'école maternelle qu'il faut que ces langues soient présentes. Et qu'elles soient présentes sous des formes qui soient naturelles à l'âge auquel elles s'appliquent. C'est-à-dire que ce sont non pas des cours de langue, mais des activités de langage en langue maternelle, du genre incitation à la verbalisation, écoute de conte, comptine, tout ce qui peut donner une connaissance intuitive de la phonétique et de la grammaire, par exemple. Et c'est vraiment à cet âge-là, c'est entre 3 et 7 ans, disons, c'est-à-dire dans le temps de la construction du langage à travers la langue maternelle, que ces programmes doivent s'appliquer.
Tiens, justement, écoutons Petit Ours Brun dans plusieurs langues.
Petit Ours Brun has a new friend. Izel comes from a country called Turkey. To say bonjour, she says selam.
Petit Ours Brun de 学校里来了一个新同学，他叫 Izel.
لا تعرف Izel حتى الآن التكلم بالفرنسية. لتقول bonjour, تقول selam.
Izel todavía no sabe hablar francés. Para decir bonjour, ella dice selam.
Але вона добре вміє гратися вантажівкою. Вона каже дють-дють. Petit Ours Brun все зрозумів.
Petit Ours Brun li fo ak mom diko jangal ay bat. Yow nak noy waxe carotte.
Claire Etchegoyen, racontez-nous cette aventure de Petit Ours Brun qu'on peut écouter en plusieurs langues grâce à un QR code. Racontez-nous un petit peu le
cette c'est beau aventure. À écouter. Hein.
C'est très beau à écouter. Ouais, et ça répond beaucoup à ce que disait Michel Launay juste avant d'écouter cet extrait.
Très exactement.
L'imprégnation dès la crèche, dès la maternelle.
Exactement. Et c'est, ça nous paraissait particulièrement juste en partenariat aussi avec Dulala, avec qui on a travaillé, d'aller avec Petit Ours Brun sur ce sujet qui est un héros populaire au sens noble du terme, qui parle vraiment à énormément de familles. C'est un héros extrêmement connu et qui est présent dans des familles y compris où il n'y a pas forcément beaucoup de livres, donc enfin vraiment qui parle à tous. Et donc on s'est dit, quand on a pris connaissance de ce chiffre qu'on a donné au début, c'est-à-dire un enfant sur quatre qui vit avec une autre langue que le français chez lui, on s'est dit, ah, pour parler à tous les enfants, il faut aller au bout et donc proposer des histoires dans d'autres langues. Et donc du coup on a effectivement 4 histoires qui ont été adaptées en audio dans les langues parmi les plus parlées en France. Et puis cette histoire d'Izel pour laquelle on a ajouté
arabe, portugais, oui, italien, espagnol, turc, comorien, anglais, roumain, wolof et chinois.
Voilà, et puis pour l'histoire d'Izel qu'on a adaptée en agrandi pour les professionnels d'éducation avec Dulala, on a ajouté aussi l'ukrainien parce que ça correspondait aux besoins des professionnels d'éducation qui travaillent avec Dulala. Et on a développé, et c'est pour rebondir aussi sur la problématique en tout cas qui peut être portée par les enseignants, c'est de leur donner aussi des clés et des idées concrètes pour faire vivre ce sujet dans leur classe ou dans leur structure, de leur faire sentir aussi que c'est possible, que c'est pas insurmontable, et de leur donner, parce que tout le monde ne parle pas wolof ou comorien, de leur donner des histoires toutes prêtes à faire écouter.
Anna Stevanatou, fondatrice de l'association Dulala, d'une langue à l'autre.
Oui, effectivement, comme le dit Claire, on ne peut pas demander aux enseignants de connaître toutes les langues parlées dans les classes. Donc l'idée, c'est plutôt de les accompagner à comprendre les enfants qui grandissent avec une autre langue que le français. Essayer aussi de mettre en place ce qu'on appelle l'hospitalité langagière, donc faire une place aux langues des familles en les outillant avec des ressources, des activités, des jeux.
Par exemple
Par exemple, on a mis en place depuis 10 ans un concours des créations d'histoires plurilingues au format du kamishibai.
C'est quoi le kamishibai? C'est un castelet, c'est ça?
Oui, très bien. C'est une technique narrative qui nous vient du Japon. Kamishibai veut dire théâtre de papier en japonais. Et ça permet de raconter des histoires à travers des planches qui se glissent au fil du récit. Et ça, c'est un exemples d'outils, des ressources pour créer des histoires en français, notre langue commune, mais ne pas, qui n'est pas la seule langue, parce que d'autres langues, au statut varié, vont se glisser dans l'histoire, et ce sont les langues des familles, mais aussi les langues des ATSEM, ou les langues des enseignants, par exemple. Et puis d'autres ressources peuvent être l'arbre de bonjour, qu'on retrouve dans Petit ours brun, un nouvel ami. Donc c'est une affiche qui permet de écrire les mots bonjour dans la langue de son choix. Donc ça permet aux familles qui parlent d'autres langues à la maison de pouvoir l'écrire, de visibiliser, de normaliser cette diversité linguistique. Mais ça permet aussi aux familles dites monolingues de mettre des mots bonjour, le bonjour de leur choix, dans la langue apprise à l'école ou lors des voyages, etc. On fait toujours très attention que ce projet reste inclusif.
Allez, il est 10h43, l'heure de retrouver Ma vie de parent de Gwenaëlle Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas.
Salut.
Merde.
Alors ce matin, on divulgâche, on spoil d'entrée de jeu. Vous allez, à ce jour, totalement échouer, ma chère Gwenaëlle, à faire de vos enfants de petits bilingues.
Et oui, échec presque total. Bon alors d'accord, il faut dire que je n'ai pas mis toutes les chances de mon côté en me mariant avec un Français, certes d'origine italienne, mais dont deux générations d'ancrage sur la Côte d'Azur ont suffi à engloutir le parler italiano. Si seulement j'avais eu un peu plus de curiosité sexuelle et amoureuse lors de mes nombreuses pérégrinations de jeunesse autour du monde, qui sait, peut-être me serais-je accouplée avec un Malien, un Burkinabé, un Guatémaltèque ou un Cambodgien. Et à ce jour, mes enfants parleraient très certainement le Bambara ou le Tamashek, le Djoula, l'Espagnol ou le Khmer. Une chance donc d'être bilingue que j'ai d'emblée volée à mes enfants. Conclusion, ils n'ont donc pas d'Alban, deux parents qui parlent français. Alors l'un version niçoise, l'autre version 93, Seine-Saint-Denis.
Pourtant, comme tout le monde, vous avez appris des langues à l'école, l'anglais, l'espagnol, l'allemand peut-être.
Tout à fait, même si l'expression la plus juste serait que j'ai assisté à des cours de langue durant en effet quelques années.
Bienvenue au club.
Voilà, de l'anglais et paraît-il un peu d'allemand, avec une efficacité donc toute relative. La preuve en est qu'étudiante, alors que dans la file d'attente du concert de Divine Comédie, je regardais mon billet, j'ai, oui, été capable de demander à mon pote s'il connaissait Guest, le groupe de première partie. Voilà, donc gros niveau de langue, on peut le constater.
Et avec vos enfants, vous aviez envie que ça se passe autrement?
Ben oui, comme tous les parents qui ont raté un truc, j'ai eu le secret espoir de rattraper cet échec à travers eux. Donc au départ, bassiné par cette fameuse idée que l'oreille des tout-petits est apte à ingurgiter plein de sons et donc de langues, je m'étais dit, il faudra leur faire écouter de l'anglais pendant le congé maternité. Mais bon, faille spatio-temporelle sans doute, entre l'allaitement, les couches, les câlins, la quête de sommeil, autant dire que j'ai complètement, mais alors complètement oublié ce projet. Du coup, quelques années plus tard, j'ai décidé de reprendre les choses en main en m'inspirant des pays nordiques. Mais si, je suis sûre que vous aussi, on vous a rabattu les oreilles avec tous ces petits Danois, Suédois et autres Norvégiens qui, parce qu'ils ont des langues inconnues du reste du monde, sont biberonnés dès le plus jeune âge aux dessins animés en anglais et deviennent donc bilingues dès 2 ou 3 ans. Un jour, j'ai donc fixé un deal avec mes enfants. Ok pour les dessins animés le mercredi, mais en anglais.
Et le résultat était au rendez-vous ?
Mais pas du tout. Et pourtant, je me revois, fier comme un paon avec mes deux enfants, regardant le livre de la jungle in English, avançant ainsi paisiblement sur le chemin du multilinguisme à la danoise. Durant 10 minutes, j'ai donc fixé mes petits trésors, froncé leurs petits sourcils pour essayer de comprendre, et puis la révolte a commencé à gronder. J'y comprends rien. Je dis, mais c'est normal, au début on comprend pas. Puis petit à petit, on apprend à reconnaître les mots. Et puis 5 minutes plus tard, « Maman, petit à petit, je comprends toujours rien !» Mais quand je te disais petit à petit, c'était disons plusieurs semaines ou plusieurs mois. Bon, et là, ça a été pire que les insoumis dans mon salon. Ouais, déjà qu'on n'a pas le droit à beaucoup d'écran, alors si en plus, quand on regarde, on comprend rien, c'est complètement nul. Bref, échec total, projet enterré. Conclusion, maintenant que j'ai vu qu'il avait suffi à notre aîné de partir étudier quelques mois en Irlande pour devenir quasi bilingue, je me suis complètement détendue sur la question. Je suis dans le lâcher prise au niveau des langues. Et comme de toute façon, il est trop tard pour leur offrir un père américain ou cambodgien, je dirais bien, avec mon seul mot d'arabe, Inch'Allah.
Gwenaëlle Boulay, tous les épisodes de Ma vie de parents sont à retrouver sur l'appli Radio France. Vous êtes par ailleurs rédactrice en chef de Pomme d'Api avec à la une, Bizi, une super abeille.
Grand bien vous fasse.
Moi, Charlot. T'es sûr que tu parles anglais?
Ah oui, parfaitement.
Et tu l'as appris où l'anglais?
Au lycée.
Ah, parce que t'as été au lycée, toi.
In a few minutes, I am sure we will see us if we even want badly to see
us. Arrête, ça va.
C'est bien?
Très bien.
Très bien.
sur France Inter.
Ça, c'est moi quand je parle en anglais. Et on s'intéresse ce matin aux bienfaits du bilinguisme. Nawal Aboub, je rappelle que vous êtes docteur en sciences cognitives. Est-ce que les bienfaits du bilinguisme perdurent tout au long de la vie ?
Alors là, c'est une question qui est un peu complexe parce qu'en réalité, ça dépend de comment vous le pratiquez. Il y a plusieurs recherches qui ont montré qu'effectivement, les gens qui vivent dans un bilinguisme constant où ils switchent d'une langue à une autre, il y a des effets bénéfiques. Il y a même certaines recherches qui ont montré que ça pouvait retarder certaines maladies comme la maladie d'Alzheimer de 4 ans. Donc pour montrer que c'est vraiment des facteurs de protection. Et après, l'autre partie, c'est qu'effectivement, il y a eu une étude assez incroyable avec des enfants coréens qui ont été adoptés en France et certains enfants qui ont été même adoptés à 6 mois de vie. On a vu pour certains encore des marques du coréen dans leur cerveau, alors que pour autant, ils ne parlaient pas du tout coréen, mais cependant, une empreinte était restée, comme quoi le bilinguisme en fonction de plein de facteurs a vraiment des effets sur notre cerveau.
Une question de France qui nous demande à combien de langues différentes un jeune enfant peut-il s'adapter ?
Honnêtement, je pense que 3, 4 langues, 5 langues, c'est vraiment pas du tout un problème. On a vraiment beaucoup d'exemples. Après, par contre, c'est vrai qu'en fond, plus on a de langues, plus on va avoir des expositions réduites. Donc après, les niveaux de performance peuvent varier. Mais j'ai envie de dire, le bilinguisme, c'est toujours dynamique. Il y a toujours des bilinguismes qui vont être au début plus ou moins présents comme ça, en fonction de là où on vit, en fonction de nos amis, etc. Donc du moment que ce bilinguisme y vit, d'une manière ou d'une autre, ça sera toujours bénéfique pour les enfants.
Et David nous demande, à partir de quel âge devient-il plus difficile d'apprendre une langue?
Alors, il y a des recherches qui montrent qu'à partir de 12-13 ans, c'est là où vraiment on voit des baisses drastiques de performance. Cependant, c'est pour ça qu'il y a vraiment la distinction bilingue précoce, bilingue tardif. On peut toujours devenir bilingue, même plus tard. C'est juste beaucoup plus d'entraînement, beaucoup d'efforts et il faut beaucoup de passion.
Claire Etchegoyen de Bayard Jeunesse.
Oui, j'aimerais bien rebondir sur le côté compétence, que c'est vrai qu'il y a de la compétence linguistique, mais et en particulier quand on l'aborde dès le plus jeune âge, le multilinguisme, c'est aussi une compétence sociale qu'on acquiert, c'est-à-dire c'est rencontrer l'autre, c'est rencontrer l'autre différent et connaître qu'on peut quand même trouver un terrain commun. Et ça nous intéresse beaucoup chez Bayard Jeunesse. Nous, notre mission, c'est d'aider les enfants à grandir en confiance et c'est aussi pour ça qu'on avait envie de se faire ce projet et de faire émerger ce sujet. Prendre confiance, c'est à la fois être reconnu dans sa langue et la culture de sa famille, et si on parle français chez soi, c'est aussi prendre confiance parce qu'on a réussi à rencontrer l'autre.
Oui, je voulais juste dire que souvent on pense que le bilinguisme c'est juste une langue, mais en fait une langue ça contient plein de choses. C'est à la fois effectivement un langage, mais c'est aussi une culture, c'est aussi des codes sociaux, des valeurs. Et c'est vrai que là on va parler justement de comment on peut cultiver ce bilinguisme, mais en fait ça c'est vraiment important. Toutes ces compétences qui sont liées à l'ouverture, à la flexibilité, à la tolérance, à pouvoir comprendre que parfois on ne parle pas de la même manière, on ne se comporte pas de la même manière. Tout à l'heure vous avez pris l'exemple justement que cette personne elle disait il est arrogant parce qu'en fait tu ne lui répondais pas. C'est vrai que tous ces codes-là, il faut pouvoir justement bien les maîtriser pour comprendre, parce que le monde dans lequel on vit va être de plus en plus multilingue.
Tiens, je vous propose d'écouter mes neveux, Louis et Benjamin, 15 et 13 ans, qui vivent à Calgary dans le Canada anglophone et qui ont eu envie de laisser une note vocale.
Hi, I'm Louis.
And hi, I'm Benjamin.
Nous sommes deux frères nés à Paris qui, en 2019, avons déménagé aux États-Unis et nous avons vécu 3 ans là-bas avant de déménager à Calgary en Alberta, qui est dans la partie anglophone du Canada. Moi, je trouve que la plus grosse opportunité que j'ai de parler deux langues couramment, c'est dans le monde du travail, vu que dans le monde du travail, la langue dominante, c'est l'anglais, ce qui aide vraiment à trouver n'importe quel boulot.
Et pour moi, c'est la liberté de pouvoir aller dans des différents pays sans être anxieux à propos de la communication.
Et pour rajouter, je trouve que j'ai une meilleure compréhension d'une certaine culture, comme la culture américaine, en parlant la langue des locaux.
Et pour moi, en quelle langue je pense? Alors pour moi, c'est un peu un mix et ça dépend de la situation. Par exemple, quand je suis avec mes copains, je vais penser en anglais. Mais quand je suis avec mes parents à la maison, je vais penser en français.
Moi par contre, c'est l'inverse de mon frère. Je trouve que je parle plutôt anglais vu que le vocabulaire est plus simple pour moi et plus rapide. Et aussi pour ajouter, bizarrement, moi et mon frère à la maison, nous parlons anglais entre nous, puisque on est à l'école toute la journée en anglais. Et du coup, quand on rentre, on fait pas vraiment le switch dans notre cerveau pour parler français.
Nawal Abboub, sur ce switch dont parlent Louis et Benjamin.
Bah c'est vrai, quand on est dominé et quand on est tout l'environnement est dans une langue, c'est vrai que c'est difficile après de re-switcher en français. Donc parce que c'est un coup pour le cerveau, dès qu'il le dit bien, hein, il en est bien conscient.
Qu'est-ce que ça t'évoque, ce que viennent de dire Louis et Benjamin? Victor, je rappelle que tu as 12 ans et qu'à la maison, tu parles plutôt chinois avec ta mère, anglais avec ton père et français avec les deux. Raconte-nous un petit peu. Est-ce que ça te parle, ce qu'ils viennent de dire?
Dans quelle langue tu penses?
Tiens, ça m'intéresse ça.
Ça dépend. Parce que si, par exemple, j'apprends ma leçon de chinois, bah, je penserai en chinois. Mais ce n'est pas tout le temps une langue. Ça peut être des images, des pensées, des sentiments. Et je sortirai une phrase selon la personne en face de moi.
Que ce soit ton père ou ta mère. Et quand tu rêvasses, quand par exemple, t'es pas devant une leçon, t'es dans ton lit, tu rêvasses, tu penses à... Quelle est la langue qui vient spontanément?
Bah, c'est plutôt des images, des sentiments et...
Ouais. Alors comment ça se passe, Ninhui Liu Wolfenstein, je rappelle que vous êtes interprète, comment ça se passe à la maison? Racontez-nous un petit peu comment ça se passe, ce passage d'une langue à l'autre.
Alors c'est tout à fait naturel, j'ai l'impression qu'il ne mélange jamais les différentes langues et il sait tout de suite repérer. Par exemple, il parle avec ma mère qui parle mal l'anglais, donc il sait tout de suite, il choisit toujours la langue avec laquelle l'autre personne, son interlocuteur, est à l'aise. Alors pour l'anglais, le français, j'avoue que c'est un peu plus facile pour lui. Alors le chinois, ça demande un effort quand même conscient supplémentaire. Je dois lui dire, oui, tu me parles en chinois, je comprends pas en français. Il dit non, si, tu comprends français. Donc je sens, et aussi après, derrière chaque langue, il y a la culture, il y a ce code et surtout des comportements. Et parfois, c'est très différent. Les Chinois, les Asiatiques se comportent complètement différents. Pas complètement, mais il y a beaucoup de différences. La façon de gérer les conflits, la façon de gérer les relations interpersonnelles, la façon d'avancer ses besoins, ses demandes. Donc parfois, je lui propose. C'est lui qui dispose et je peux analyser avec lui. Par exemple, devant une personne aînée, âgée en Chine, qu'est-ce que tu dois te comporter? Tu dois lui laisser la place, tu dois montrer de façon ostentatoire le respect, alors qu'en Europe, le respect se manifeste d'une autre fois. Tu ne cèdes pas automatiquement la place à une personne que tu trouves plus âgée que toi. Forcément, parfois, c'est peut être même vexant. Donc du coup, c'est assez complexe. Donc je l'expose à toutes sortes de choses. C'est à lui de faire sa petite analyse et j'oriente aussi.
Tu es d'accord avec ça?
Oui.
Et juste un conseil pour cultiver le bilinguisme, Nawal Abboub.
Alors, si vous avez envie de le faire, faites-le le plus tôt possible. Si vous avez envie de l'acquérir plus tard, cultivez tout ça. C'est exactement ce que vous étiez en train de dire. Ça vous ouvre à plein de choses. Le monde de demain, c'est un monde où il y a plein de langues qui sont parlées de différentes manières. Il n'y a pas que l'anglais qui est une langue certes merveilleuse, mais il y en a plein d'autres aussi qui ont une place importante. Et vive le bilinguisme.
Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Nawal Abboub. On peut lire La puissance des bébés, c'est passionnant au livre de poche. Merci beaucoup Claire Etchegoyen. Les histoires de petits ours bruns dans plusieurs langues sont à lire, sont à retrouver en kiosque. Merci beaucoup Michel Launay et merci beaucoup Anna Stevanato de l'association du Lala et merci Ninhui Liu Wolfenstein et merci à toi Victor d'être venu.
Rends bien vous fasse un podcast France Inter.